Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas roter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
C'est un bon début, je crois. Hein, on est en plein hiver. Bonjour, c'est Cinérama. Donc, émission frisquette dans ce studio de Divergence. Nous sommes le 8 février. Et bonjour Marine.
Bonjour Vincent, bonjour Manu, bonjour à tous.
Voilà, et bonjour. Manu. Alors, bien, on va tout de suite développer le sommaire parce qu'aujourd'hui, ça va être très dense, encore une fois. À toi de commencer peut-être, Marine.
Oui, alors moi, je parlerai de deux films, Another Happy Day et Elle, au pluriel. Et je vous parlerai des catchlines, c'est-à-dire ces phrases que l'on peut voir sur les affiches de cinéma.
Du genre film exceptionnel.
Voilà.
Interprétation prodigieuse. Hein, c'est ça.
Exactement.
Et toi Manu, qu'est-ce que tu as choisi parmi les films?
Donc bah, j'ai choisi un film donc inédit en salle, hein, qui est sorti uniquement en DVD et Blu-ray, The Ward de John Carpenter.
Bah oui, John Carpenter qui est maintenant maudit, hein, enfin, en tout cas oublié.
Oublié, ça fait 10 ans qu'il n'avait pas fait de film. Donc...
Et puis bien, nous aurons aussi deux interviews, une de FJ Osang qui est l'invité du Montpellier 100% Festival qui se déroule en ce moment même. Et puis nous parlerons aussi avec le délégué général des rencontres de Pesnas qui vont débuter ce 10 février. Ça c'est la partie interview et puis la partie chronique, eh bien, il y aura la taupe. Il y aura aussi Detachment, et puis je ferai un tout petit rappel sur La Mouche, parce que demain soir, il y aura une soirée Cronenberg, avec le dernier Cronenberg, qui est peut-être le film le plus confidentiel du réalisateur, en tout cas celui qui est le moins grand public, et puis La Mouche, qui me semble-t-il est le film le plus grand public. Ils seront rassemblés tous les deux au Nestor Burma demain.
Cinérama sur Divergence FM.
Et on commence donc tout de suite avec... Another Happy Day, qui est le premier film de Sam Levinson, un film sur lequel il a réuni d'ailleurs un impressionnant casting. Alors Lynn arrive chez ses parents, père mourant, mère glaciale, pour le mariage de son fils Dylan. Ce dernier semble être le plus équilibré de toute la famille qui ne va pas tarder à se retrouver pour deux jours qui seront loin d'être heureux.
Oh, and just so you're prepared, the last time you went to rehab, I told them you were in Sweden.
Sweden?
What?
You're treating me like an animal.
It's either this daddy or the old folks home. You make the choice.
Granddad?
Did he just die on camera?
What did you do to him, Elliot?
Nothing, Mom.
Elliot, just go to your room.
Mom, I'm not 6 years old and I don't have a room. This isn't my house.
Elliot has obsessive compulsive disorder. He has Tourette's syndrome, for God's sake.
Oh, okay.
Sorry.
Alors, autour de Lynn, nous découvrons son ex-mari qui l'a quitté de façon tumultueuse, sa nouvelle femme, aux dents aussi longues que ses talons aiguilles, et ses trois autres enfants qui ont eu en héritage toutes les névroses parentales. On s'égare quelque peu dans les méandres de cette famille digne d'une tragédie grecque et l'on peine à éprouver de la sympathie à leur égard tant les traitements des personnages et les performances d'acteurs sont disparates. Car il ne suffit pas de s'estampiller Sundance Festival pour réussir un film en huis clos sur une famille étouffée de secrets et ainsi prétendre à réaliser un nouveau festin. Si certaines situations sont poignantes, certains dialogues assez drôles dans leur noirceur, le rythme inégal et la répétition pénible de certaines scènes plombent l'ambiance d'un film qui ne brille déjà pas par la légèreté de son propos. La faute, en grande partie, au personnage principal de Lynn, joué sans aucune subtilité par une Hélène Barkin totalement figée dans son lifting. Les films indépendants américains devraient d'ailleurs penser en premier lieu à caster des comédiennes capables d'avoir encore quelques expressions faciales si elles veulent réellement apporter un souffle nouveau et aller à l'encontre des codes hollywoodiens. Heureusement, la jeune garde est là pour relever le niveau et ajouter un peu de cynisme aux prises de bec des adultes qui autrement prendraient des airs d'un épisode de Amour, Gloire et Botox. L'un des films, interprété par Ezra Miller, qui s'est illustré en psychopathe précoce dans We Need to Talk About Kevin, est parfait en adolescent toxicomane qui porte un regard éclairé et insolent sur sa fratrie autodestructrice. Kate Bosworth, que l'on avait découvert dans Les Lois de l'Attraction, excelle également dans son rôle de jeune femme qui se mutile, sans compter leur plus jeune frère, qui soigne sa tendance à l'autisme en filmant les déboires de ses congénères. On peut déplorer également que peu de personnages soient réellement en demi-teinte, la plupart des portraits étant faits au vitriol et sans profondeur, excepté celui de la matriarche, jouée par Hélène Burstyn, que l'on n'avait guère revue au cinéma depuis son interprétation dans le très culte Requiem for a Dream, et qui obtient ici le rôle le mieux écrit. On sort du film sans avoir ri et sans avoir non plus essuyé sa larme, juste chargé de cette impression désagréable d'avoir assister à une suite d'engueulades mal filmées, comme si on n'en avait pas déjà assez dans la vraie vie. Voilà, donc je le conseille pas forcément, c'est un peu pénible, c'est un petit peu longué, c'est pas très intéressant.
Voilà, et c'est, ça vante les mérites de la chirurgie esthétique, donc.
Oui, un petit peu trop, ça c'est vraiment le point noir du film.
C'est un visage figé à la Catherine Deneuve, j'imagine.
C'est même pire que ça, et sincèrement, je suis pas vraiment contre la chirurgie esthétique, mais je veux dire, quand on est comédien, enfin, il y a des choses à ne pas faire, quoi, et le visage, c'est son outil de travail, et je pense que dans ce cas-là, il faut essayer de pas le figer. Voilà.
Merci Marine.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
Parlons maintenant de la taupe de Thomas Alfredson.
Il y a une taupe dans les plus hautes sphères du cirque. Elle est là depuis des années.
Il y a une taupe dans les plus hautes sphères du cirque et elle est là depuis des années. Alors évidemment, quand on entend ça, ça peut laisser dubitatif, mais très vite on comprend que la taupe c'est un espion infiltré qui cafte tout à ses patrons. Et que le cirque, c'est le nom d'un service. Mais lequel ? Eh bien, ni plus ni moins que les services secrets de Sa Majesté britannique, le MI6. La taupe, on voit bien l'image, elle se tapit dans le sous-sol et elle sort en faisant ses petits trous sans qu'on l'aperçoive. Mais le cirque, on voit moins bien. Il s'agit en fait de Cambridge Circus, une intersection routière près de laquelle se trouvait le siège du... Enfin, se trouverait le siège du MI6, une allusion qui ne se retrouve que dans les romans de John le Carré, dont Tinker, Taylor, Sawyer, Spy, qui voudrait dire Rétameur. Alors, je ne sais pas ce que... Vous savez ce que ça veut dire, Rétameur ?
Non.
C'est un type qui recouvre d'étain des surfaces de métal, voilà. Et donc, Taylor, tailleur, et puis Sawyer, Spy, soldat, espion. Hein, qui a finalement été traduit par la taupe en français, et ça, on ne va pas s'en plaindre. Donc, la taupe est avant tout un roman de John le Carré, qui en a écrit une flopée sur les agents secrets, et ayant été lui-même agent secret dans les années 50, on peut donner un minimum de crédit aux péripéties qu'il romance. Et c'est aussi ce qui frappe dans cette adaptation de Thomas Alfredson, tout y semble méticuleux avec une reconstitution frappante de l'atmosphère des années 70, époque à laquelle se déroule l'intrigue, que ça soit dans le décor ou les enjeux géopolitiques du moment. Alors si l'histoire est simple... on sait qu'il existe une taupe dans un cercle très fermé du MI6, un cercle si fermé qu'ils se réunissent dans une sorte de cage imperméable à l'agitation extérieure. On ne sait évidemment pas de qui il s'agit. Et en un peu plus de deux heures, le film va nous donner quelques pistes pour qu'on puisse tirer les fils et découvrir cette maudite taupe qui a l'inconvénient de faire des dégâts.
Moscou a placé cette taupe. C'est un de ces cinq hommes.
Il a tué notre homme à Istanbul. Faites-le maintenant.
Tout est devenu tellement laid.
Nous ne sommes pas si différents, vous et moi. On a tous les deux passé notre vie à rechercher les faiblesses de nos systèmes réciproques.
Un homme est choisi pour traquer la taupe, un homme qui vient juste de prendre sa retraite. Alors en dehors du système et toujours bien noté de ses supérieurs, pense-t-on, il pourra débusquer le traître. Il s'agit de George Smiley, dont l'apparence n'a rien à voir pourtant avec un émoticône rigolard. Ça serait même tout le contraire, vieux smoking, lunettes, sans occupation et séparé de sa femme qui a préféré un de ses collègues. Mais bon, quand il s'agit de débusquer super traître, mieux vaut être super concentré et sa rigueur est évidemment un atout. Portrait de ce monde d'agents secrets dont certains prennent quelques distances avec leur posture, portrait des bureaucrates qui tirent les ficelles, portrait d'une époque, la guerre froide, reconstitution bluffante des années 70. La taupe est un film qui se consomme sans y prendre garde. Les éléments s'emboîtent avec quelques scènes de sueur froide, les décors changent quelque peu et finalement, ce n'est pas tant de découvrir qui est la taupe, mais les moyens pour y arriver et cette lente description des mœurs des services secrets qui fascine. La mise en scène est classique, la lumière nous renvoie dans une sorte de nostalgie grisâtre et le jeu d'acteur, second rôle y compris, donne à l'ensemble une crédibilité, avec une mention spéciale à Gary Oldman et John Hurt, voilà le fameux Elephant Man, voilà, qui avait remporté un Oscar pour ce film. C'est un anti-James Bond, ne vous attendez à aucun gadget, ni voiture surpuissante équipée de canons, ni montre à gaz paralysant. Le seul gadget que l'on trouvera est un des premiers ordinateurs de l'époque, sans doute à peine plus puissant qu'un téléphone portable bas de gamme de notre époque. Donc c'est en version originale au Gaumont et au Diagonal, et puis en version française dans tous les multiplexes, ça sort aujourd'hui. Donc la taupe qui est nommée aux Oscars, voilà, et notamment Gary Oldman en tant que meilleur acteur.
Cinérama sur Divergence FM.
On passe d'un gros film, d'une grosse super production, environ 20 millions de dollars, à un cinéma un peu plus confidentiel, c'est celui de F.J. Hosang, qu'on a rencontré, c'était lundi, et donc il est l'invité de Montpellier à 100%, festival pluridisciplinaire, qui a proposé à Hosang donc de passer une bonne partie de la semaine au Diagonal, avec la projection de 3 de ses films. On l'écoute.
Ce qui a intéressé le festival par rapport à FJ, c'est justement sa modernité en tant qu'artiste, à savoir justement écrivain, musicien, et en plus, voilà, pas écrivain, puis musicien, puis cinéaste, écrivain, musicien, cinéaste, qui s'inscrivait complètement dans l'idée du festival pluridisciplinaire, ouverture sur des... On a déjà fait des cinémiques, des choses comme cela. On n'avait pas fait réellement de rétro sur un cinéaste. Et FJ, c'était une sorte d'évidence un petit peu. Dont notamment parce qu'il y a aussi rock'n'roll, quoi. On est quand même un peu rock'n'roll.
Je m'appelle Hosang.
Capture, interrogatoire, prison, m'intéresse pas.
My name is Hosang, FJ Hosang.
Voiture, m'intéresse pas. Maison, m'intéresse pas.
Et voilà, donc j'ai fait quelques films, et puis quelques livres, et quelques disques.
Si, voyage et chimie.
Et donc là, je présente Darmagens, Le Trésor d'Ilchen et Docteur Chance. Parce qu'en fait, c'est vrai, comme je dis à propos de la musique, parce qu'on me dit, ah oui, comment vous faites? Mais c'est vrai, quand on vit avec la musique ou avec les livres, mais c'est vrai que les livres se manifestent à tel ou tel moment, et puis même des choses qui ne sont pas programmées initialement, puisque en fait, quand j'ai fait Silencio, par exemple, le film, je l'ai tourné intégralement en muet, je l'ai monté en muet, puis soudainement, comme on avait fait un mix, et il y avait eu des problèmes techniques, j'entrais d'Argentine, j'étais complètement en décalage horaire. Donc la Cinémathèque avait présenté les films, et après, donc, ils avaient organisé une soirée au Nouveau Casino, et donc on avait fait une soirée de mix, et la machine était déréglée. J'entendais ces basses sur ce... On commençait le mix par un morceau qui s'appelle « Convincing People », que j'avais sur un vieux live incroyable, sorti sur Massacre Records, ça a 400 exemplaires, et ça m'avait, avec la tension... Et soudainement, ce morceau que j'adorais, il y a un live de 13 minutes, mais qui est incroyable, et tchou, comme ça, naturellement, j'ai dit, ah oui, si on essaie Convincing People, et Hamburger Lady, et après, en trois coups de ciseaux, quelques bruits annexes rajoutés, et c'était Silencio, et soudainement, alors que le film était vraiment donc un film muet avec une partition d'images et de textes, en fait, de titres. Et le film, c'est instantanément à trouver son passage, disons, entre son, image et mots.
Ce rapport à la musique, alors on le voit dans l'ouverture de Darmagens, hein, parce que voilà, on voit du ski nautique avec une musique rock'n'roll, ça voilà, c'est quelque chose que...
C'est un morceau que j'avais fait. J'aimais vraiment beaucoup ce morceau-là de Lard, War Pimp Renaissance. Et c'est vrai que j'avais commencé à écrire sur ce morceau. Mais après, il y a toujours un truc, est-ce que ça a marché, pas marché? Et puis, de toute façon, il y a quand même toujours une force de l'accidentel à l'œuvre dans le cinéma, enfin, tel qu'on le pratique, hein, nous, les Européens, disons. Et j'avais vraiment l'idée, dans le scénario, il était vraiment écrit qu'il y avait ce morceau. Et puis, finalement, j'ai tourné la scène de façon vraiment minimale, quoi. Je crois qu'il y a que 5 plans dans la scène d'ouverture. En réduisant complètement, disons, la composante anecdotique. Et puis après, on a commencé le montage et ça a marché.
Et pour toutes les musiques, sur les séquences, c'est des choses que vous voyez rapidement? Enfin, quelle musique va coller à telle séquence?
C'est Sternberg qui disait « Je comprends pas le cinéma actuel ». La caméra raconte la même chose que raconte le scénario, qui raconte la même chose que raconte la musique. Et donc, c'est du son, de l'image et des mots, c'est justement pour qu'il y ait... Et une complémentarité à défaut de dimension dialectique. Donc, le son est un véritable événement, comme le visuel, etc. Il n'y a que 2-3 livres qui ont été vraiment fondateurs en matière de presse de théorie du cinéma ou de... C'est bien sûr La naissance de la tragédie de Nietzsche, qui à mon avis est un livre, c'est pour ça qu'on parlait tout aussi d'opéra tout à l'heure, qui est vraiment le livre de Nietzsche écrit pour favoriser le coup d'état artistique de Wagner, l'état théâtral, musical, etc. Et donc qui recherche, qui est brisé des origines, enfin d'une espèce d'authenticité perdue de la tragédie, puisque la tragédie, c'est étrange, ça n'a duré que 3 générations. Tragédie grecque, mais alors c'est incroyable comme ce livre parle en fait entre le dionysiaque, l'apollinien, enfin c'est vraiment... Bien sûr Eisenstein, la non-indifférente nature, et puis les entretiens de Cocteau qui sont vraiment passionnants, qu'il a donné 15 jours avant de mourir, et qui sont très très intéressants, et notamment où il explique que comment la vérité peut surgir, alors qu'on devait tourner sous le soleil, c'est la pluie, comment l'obscurité peut prendre la place du soleil, enfin, c'est comment c'est une réinterprétation, parce que c'est vrai que le cinéma, c'est composé, mais à la fois composé avec les éléments et les événements. Bientôt, il n'y aura plus qu'à découvrir la série Z. Tellement le cinéma se rétrécit, je trouve, oui.
Voilà, donc c'était F.J. Hossang, un tout petit bout de l'interview. Alors, on était plusieurs à être autour de lui. C'était une interview un peu particulière parce que quand tu lui posais une question, il répondait pas forcément directement à la question, mais partait très vite dans ses interprétations, et il en faisait un peu qu'à sa tête, mais c'était quand même relativement riche, notamment hein, d'apprendre quand même qu'il y a trois ouvrages fondateurs pour comprendre le cinéma. Moi, j'étais assez surpris, hein. Je me souviens de Salvadori, donc Pierre Salvadori qui fait des comédies, hein, qui avait dit, qui avait lui qu'un seul ouvrage qui l'avait vraiment intéressé, c'est celui de Michel Chion, Qu'est-ce qu'un scénario ou comment écrire un scénario. Voilà. Donc là, c'est une version un peu différente, mais précisons que F.J. Hossang donc est un écrivain, poète, musicien et cinéaste, tout ça à la fois. Alors, on précise qu'il y a Darmagens qui sera projeté ce soir à 18h au cinéma Diagonale. Ensuite, le Trésor des îles Chiennes, c'est ce soir, le Trésor des îles Chiennes à 18h. Docteur Chance, qui est un autre film, ce sera demain jeudi. Le Trésor des îles Chiennes est reprojeté à 18h vendredi. Et puis, ça se terminera avec samedi, Docteur Chance à 18h. Voilà, tout cela est à 18h au cinéma Diagonale. Et c'est avec Montpellier à 100%. Tout de suite, Carpenter.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Bonjour.
Bonjour Manu.
Donc voilà, je vais vous parler donc de The Ward. Donc c'est le retour de John Carpenter, l'un des francs-tireurs du cinéma américain. Cette fois-ci, c'est un retour plutôt dans la position du tireur couché, autrement dit en mauvaise posture. Car un temps pressenti pour une sortie dans les salles françaises, The Ward sort directement par la petite lucarne en DVD et Blu-ray, victime sans doute des rumeurs peu flatteuses. À lire d'ailleurs les premières critiques sur le web, le pire était à craindre.
Votre dernier souvenir, c'est quoi ?
Le feu. Vous vous appelez ? Kristen.
Voilà le quartier des Allemands. Ta nouvelle maison.
Qu'est-ce que je fais ici ? Vous n'arriverez pas à tout leur faire dire.
Des fois, quand vous emmenez les gens, on les revoit plus jamais.
Si j'étais toi, je ferais attention à la nouvelle. Il y a un fantôme ici.
Je suis certain que vous croyez avoir vu ce que vous dites.
Je suis pas folle. C'est la dernière qui est sortie. Elle était l'une de nous, mais elle n'est plus là.
Maintenant, elle va tout nous tuer.
Il faut parler avec elle.
Il faut qu'on s'en aille d'ici. Enfilez-lui une camisole et enfermez-la. C'était pas si compliqué que ça.
Donc, à 64 ans, John Carpenter, il n'a au fond plus rien à prouver, même s'il est triste de voir un des plus grands cinéastes américains issus des années 70 réduit aujourd'hui au rang de Yes Man. Donc, les échecs consécutifs du Barré Los Angeles 2013, de Vampire et du décevant Ghost of Mars ont stoppé sa carrière pendant une bonne dizaine d'années. Hormis deux segments qui, pour les Masters of Horror, le plus classique des cinéastes américains n'intéresse plus les producteurs. Il rejoint donc la liste des cinéastes de sa génération en perte de vitesse pour des raisons qui divergent. George Romero s'est enfermé dans l'univers autiste des zombies, Dario Argento flirte dangereusement avec le ridicule, Wes Craven vit sur ses acquis de petit faiseur cynique et Joe Dante ne trouve plus de financement. La liste est longue. C'est quand même un triste constat pour tous ces artistes qui réussirent en leur temps à s'imposer comme de véritables démiurges, même s'ils œuvraient dans un univers peu propice à la reconnaissance critique et publique. The Ward est une pure commande. Carpenter là, n'a ni signé le scénario, ni la musique. Il a été débauché comme un pur exécutant, au même titre qu'un Patrick Lussier ou d'un David Ellis, réalisateur de Serpent dans l'avion et des Destinations finales. Il ne semble donc pas l'homme de la situation pour transcender une histoire assez consensuelle. Donc le scénario. En 66, Kristen se retrouve enfermée dans l'hôpital psychiatrique de North Bend, dans l'Oregon, après avoir été retrouvée près d'une demeure qu'elle venait d'incendier. La clinique semble abriter que des jeunes femmes perturbées mentalement qui disparaissent mystérieusement les unes après les autres. Donc Kristen va rapidement se retrouver piégée et persécutée par un spectre malfaisant. C'est une ghost story assez prosaïque. Donc The Ward débute un peu comme le film de Sucker Punch de Zack Snyder. Le personnel hostile et inquiétant, le décor étouffant et glacial, la photographie blafarde instaure un climat à la fois anxiogène et onirique qui n'est pas sans rappeler le sous-estimé film de Zack Snyder. Un autre détail accentue l'étrangeté du projet, le nombre réduit d'internés, à savoir 5 jeunes femmes au comportement psychotique bien distinct, comme si elles représentaient chacune une facette de la folie. Elles sont toutes suivies d'ailleurs par un médecin, qui est plus ambigu qu'antipathique, qui cache en fait un lourd secret. L'hôpital devient alors une sorte d'espace mental où la réalité et le rêve fusionnent dans un environnement cloisonné. Le croisement en fait entre le film d'épouvante à l'ancienne et le conte de fées, nourri de références psychanalytiques, est séduisant en surface, mais malheureusement traité de façon un peu superficielle. Carpenter, en lorgnant du côté du phénoména d'Dario Argento et du Carrie de De Palma, réussit néanmoins de belles séquences oniriques, comme notamment celle de la douche, assurément la plus réussie sur le plan formel. Bon, si l'ambiance en fait oppressante est le point fort de The Ward, le scénario convenu, en dépit d'un twist final assez surprenant, ne déparait guère d'un Gothica ou d'un Unborn. La personnalité de John Carpenter a du mal en fait à s'emparer d'un projet dont on retrouve guère les thèmes et les personnages emblématiques de l'auteur de New York 97. où est passé en fait l'esprit vachard et politique d'invasion Los Angeles et vampires, et surtout où est passée cette propension à faire naître l'angoisse et le suspense en deux ou trois plans comme dans La Nuit des Masques et Fogg. À l'inverse de ces personnages rebelles qui ne capitulent jamais devant l'autorité, Big John, comme on l'appelle dans les cercles fermés, sans avoir perdu la main, a visiblement cédé aux exigences des studios. Heureusement, la mise en scène ample et classique situe The Ward nettement au-dessus du panier. Cette élégance visuelle, renforcée par un découpage fluide et une science inégalée du plan large, prouve à quel point Carpenter reste un maître en matière de gestion d'espace et de temps. Cette virtuosité, tout en retenue, se situe en fait dans la ligne droite de ses maîtres, John Ford et O'Hara en tête, mais elle n'arrive pas à atténuer, cette virtuosité n'arrive pas à atténuer un fantôme en fait, qui n'est pas vraiment effrayant et un suspense éthéré, sans tension réelle. Néanmoins, ce film devrait quand même inciter les producteurs à renouveler leur confiance au cinéaste en lui laissant les mains libres pour un projet plus personnel. Enfin, il faudrait quand même signaler que la magnifique Amber Heard, qui était déjà parfaite dans All the Boy Love Mandylen, un slasher assez étonnant, elle est très crédible et touchante dans le rôle périlleux de Kristen. Elle pourrait peut-être devenir à l'avenir la nouvelle égérie des meilleurs films d'horreur.
Ah, c'est pas mal comme créneau, ça.
Devenir une égérie, oui.
Elle est blonde, elle porte un t-shirt blanc.
C'est un peu ça, oui.
C'est un peu ça.
Ouais, c'est bon alors. C'est bon. Puis, sa carrière est lancée.
Elle est très jolie.
Donc voilà, donc ce film de Carpenter n'est disponible qu'en
DVD. Ouais, malheureusement. Il est quand même sorti aux États-Unis et en Angleterre. Mais
ah oui.
Oui, il est quand même sorti là-bas.
Et là, il n'y a plus de public en France. C'est ce qu'ont décidé plus ou moins les distributeurs. Là,
je pense aussi que, vu le sujet, une éternelle histoire de fantômes, ça n'a pas dû inciter les distributeurs à le sortir en salle, étant donné la flopée de films, aussi bien américains qu'asiatiques, qui sont sortis récemment sur le même type de sujet.
Voilà, oui. En tout cas, on peut découvrir aussi, enfin moi, un film qui m'avait énormément touché, c'est The Thing.
Il y a eu un remake récent, pas très réussi d'ailleurs.
Qui n'était pas très réussi, voilà. Donc autant revenir à l'original de Carpenter, oui.
Même si je pense qu'il sait avoir The Ward, hein, parce que ça se situe quand même au-dessus de ce qu'on sort habituellement dans ce type de film. Donc voilà, c'est quand même à voir.
Alors tu reviens la semaine prochaine avec quel autre film cinéaste?
Alors, la semaine prochaine, je vais vous parler d'un film qui s'appelle The Woman de Lucky McKee, qui avait sorti en France un film remarquable qui a aujourd'hui bien 10 ans, qui s'appelait May. C'était l'histoire d'une fan de films d'horreur qui reconstitue une poupée un peu...
Type vaudou.
Ouais, voilà, c'était un truc un peu comme ça, et c'était assez étonnant. Et depuis, Lucky McKee n'a pas fait grand-chose. Il avait sorti un film, The Wood, pareil, direct DVD. Et là, de nouveau, The Woman, pourtant très remarqué au Festival de Sundance. Et je crois qu'il a eu un prix à Gérard Maire, pareil.
Mais ça ne suffit pas.
Ça ne suffit pas.
Allez, maintenant, on passe quasiment sans transition au cinéma français.
Cinérama. Sur Divergence FM.
Allô, bonjour, c'est Lola. Vous voulez un rendez-vous?
Oui, ça je fais.
Avec mon premier client, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Sa façon de me regarder, ça m'excitait.
Mais vous aimez qu'il touche vos seins? Vous avez l'impression d'être dominé? Vous avez un sentiment de pouvoir?
Vous n'aimez pas ça, vous?
C'est comme les clopes, en fait. C'est difficile d'arrêter. Parce que d'un coup, j'ai de l'argent.
Mais ils sont comment, ces hommes? Ils ont des problèmes?
Non, non, pas du tout. Ils sont complètement normaux. Bah, ils ont pratiquement tous l'âge d'être mon père, donc...
Des maris qui s'ennuient.
Et vous trouvez ça pas humiliant?
Non.
Cet article est vraiment bizarre, cette recherche sur les putes.
Mais je suis pas si sûre que ce soit des putes.
Une pute, c'est une pute.
T'as l'air de t'y connaître.
Mon mari, ils aiment bien dire des trucs. Genre, t'aimes bien ma grosse bite, comme ça ma petite salope. Ils me racontent leur petite vie, leur boulot, leur femme.
Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous dans tout ça?
C'est mentir. C'est de mentir tout le temps.
Tu vois pas la chance que t'as? Tu vois pas tous les gens qui se battent dehors?
Il fait quoi de quoi tu me parles?
J'ai l'impression de puer encore tout ça. On abolit Flaubert comme tout le monde. Faire des études, ça change rien. Je vois très bien, moi, que je suis pas comme vous.
Ça doit vous rendre un peu seul quand même, non?
De toute façon, on est tous tout seuls.
Juliette Binoche est journaliste à Elle, bien installée dans son existence parisienne et bobo et dans son couple un peu vacillant mais confortable. Elle décide de se lancer dans un article sur la prostitution étudiante qui va la mener à la rencontre de deux jeunes femmes qui vendent leur charme. Alors ce premier film, Elle, donc, de Malgorzata Zumowska.
Bravo.
Aborde un sujet difficile en adoptant le point de vue d'une femme à l'opposé de celle qu'elle étudie. À travers les yeux d'une mère embourgeoisée qui ne conçoit pas que ses étudiantes soient capables de coucher pour de l'argent et encore moins d'y prendre plaisir, on découvre des témoignages si saisissants de naturel qu'ils en font vaciller ses préjugés en même temps que les nôtres. Juliette Binoche excelle dans ce contraste en femme à la liberté endormie qui va retrouver dans la fraîcheur de ses call girls qui pourraient être ses filles une occasion inattendue de se remettre en question. Face à elle, une inconnue polonaise féroce et enfantine est la jeune Anaïs Demoustier qui commence à se faire sa place dans le cinéma français d'auteur, joue si bien que l'on pourrait croire à un documentaire. La mise en scène n'est pas forcément très épurée, mais elle reste digeste et parfois bien pensée. Intelligente lorsqu'elle fait ressentir par des plans séquences tortueux la cage dorée dans laquelle se perd le personnage central, un peu trop pompeuse quand elle fige les personnages dans ses grands salons parisiens sur fond de Beethoven. Le film ne cherche pas à livrer un discours tout pensé, mais se présente plutôt comme une invitation à la réflexion dans tous les sens de l'homonyme. Il tend un miroir au spectateur, tout comme il l'oppose et fait se refléter les actrices. Étrangement, tous les journalistes de genre masculin ont détesté Elle et en ont fait des critiques assez méprisantes. Ce n'est pas très surprenant et c'est probablement assez représentatif de la gêne que doivent éprouver les hommes devant ce film, mais c'est dommage car il ne s'agit ni d'une dénonciation ni d'un manifeste féministe, juste d'un petit morceau de vraie vie et surtout de vraie femme. C'est un film qui montre l'humain sous toutes ses coutures, y compris celles que l'on cache, et les hommes, c'est vrai, n'y ont pas la part belle. Mais le film n'est pas pour autant à charge contre eux, il cherche surtout à montrer leur sensibilité et à explorer leur faiblesse, et c'est peut-être justement ça qui a dérangé. Voilà, en effet, c'est un truc que j'ai constaté. Tous les critiques hommes n'ont vraiment pas aimé le film. En revanche, les femmes ont plutôt bien aimé.
Ah oui. Et il y a combien de critiques femmes d'ailleurs par rapport.
Il y en avait une majorité justement. Je pense que c'est surtout elles qui ont voulu aller voir le film. Les hommes, ça les a pas trop intéressés. Il y a plus de critiques femmes qui ont été le voir.
Ouais. J'ai pas regardé si le magazine Elle justement.
Le magazine Elle a adoré, mais en même temps, je pense qu'ils ont quelque peu leur part dans le film. Donc.
Oui, mais il me semble d'ailleurs que c'est plutôt un critique masculin. Qui écrit dans Elle.
Et oui. Je ne sais pas, j'ai pas vérifié.
Philippe Collin.
Eh oui, voilà. Donc il a aimé lui, mais il était peut-être obligé d'aimer.
Je vérifierai.
Non, mais peut-être qu'il a, avec toutes les discussions qu'il peut avoir dans la rédaction de Elle, peut-être qu'il a cette sensibilité qui lui permet.
Ou en même temps, je pense aussi que c'est parce que le logo du magazine est sur l'affiche, donc ils n'ont pas trop le choix.
Écoute Coco, tu vas faire un bon article.
En tout cas, c'est extrêmement bien joué, c'est vraiment très naturel, très sensible et c'est plutôt un bon film, donc je le conseille. Et ça passe au Diagonal.
Et puis ça fait plaisir aussi de retrouver Juliette Binoche.
Qui est là vraiment au top, hein. Vraiment ouais. C'est un de ses meilleurs rôles.
Et elle va, je crois que c'est dans 15 jours, elle sort un nouveau film que j'ai vu en avant-première. Voilà. Je vous en parlerai plus tard et elle est aussi, enfin moi à chaque fois ça me fait plaisir de toute façon dès que je la vois sourire cette femme. Eh bien merci Marine, on passe à tout autre chose encore une fois sans transition.
Cinérama sur Divergence FM.
Le Nestor Burma fête ses 1 an, voilà, le cinéma municipal de Montpellier a décidé de faire plein tout un tas de choses. Alors on a cherché à voir Serge Frédéricoff, le directeur du cinéma, mais il est injoignable. Et j'aurais bien aimé pourtant parler avec lui de cette soirée demain, jeudi, à partir de 20h, une soirée Cronenberg. Alors, quand même, une soirée Cronenberg avec deux films, Dangerous Method, donc le dernier film de Cronenberg qui est sorti. C'était en décembre. Et puis aussi, La Mouche, qui est juxtaposée donc, avec Dangerous Method, que tu as vu, Marine, hein, qui est un film, bon, pas très grand public. On se demande. Pourquoi c'est Cronenberg qui l'a fait,
oui, pas trop,
comment
dans son
ça peut
style,
être Cronenberg
surtout, ouais.
Mais bon, c'est surtout dans les thèmes que ça peut intéresser Cronenberg. Et donc, juxtaposé à ce film, il y a La Mouche. Un couple excentrique, et plutôt intéressant se rencontre. Ils tombent follement amoureux l'un de l'autre. Lui attrape une horrible maladie, elle contemple sa longue agonie et finit par l'aider à se tuer. Fin de l'histoire. Voilà comment David Cronenberg commente La Mouche, ou The Fly, sorti en 1987 en France, et qui est donc probablement le film le plus connu du réalisateur canadien. tourné 3 ans après le fameux Dead Zone, adapté de Stephen King, sur la préconition qui marqua les esprits, et avant Faux-semblant, cette histoire de deux médecins jumeaux dont l'un est amoureux d'une patiente qui possède une particularité organique, c'est qu'elle a 3 trompes au lieu de 2. Cronenberg et la normalité, apparente ou non, ça n'est pas nouveau. Alors qu'il s'agisse de Chromosome 3 en 79, où il est question de petits monstres naissant de l'esprit perturbé d'une mère, de Scanners en 1981, où l'on a affaire à des hommes mutants capables de prendre possession de l'esprit humain, ou encore le Festin nu et Existence qui révèle des niveaux de réalité et donc des pouvoirs humains insoupçonnés, Cronenberg, dans toute sa filmographie, traite de près ou de loin du corps et de manière singulière, ce qui fait de ce réalisateur qui a commencé avec des films très ancrés dans le genre de l'horreur un cinéaste à part. Alors La Mouche est une commande de la 20th Century Fox, d'abord confiée à Tim Burton, trop occupé avec ses projets, et c'est donc Cronenberg qui travaille sur le script. Il bénéficie d'un budget de 15 millions de dollars, ce qui est à l'époque le plus gros budget pour un film de Cronenberg. Alors on ne peut pas dire que ça soit le casting qui prenne tout l'argent, puisqu'on retrouve Jeff Goldblum, qui n'avait pas fait grand-chose, et pas plus Gina Davis, qui lui donne la réplique. Alors une Gina Davis qu'on retrouvera ensuite dans Beetlejuice et Thelma & Louise quelques années plus tard, donc. La Mouche est une adaptation d'un film de 1958, La Mouche Noire de Kurt Neumann, avec l'un des acteurs spécialistes des films d'épouvante, le fameux Vincent Price. Et disons-le tout de suite, l'adaptation de Cronenberg n'a plus rien à voir avec l'original. Alors dans l'original, un scientifique fait une expérience de téléportation sans faire attention à la mouche qui fait le voyage du point A au point B avec lui. Suite à cette boulette, il se retrouve homme avec tête de mouche, quand la mouche, elle, se retrouve avec une tête d'homme. Il demande de l'aide à sa femme pour retrouver cette mouche insolite, mais en vain, et du coup se suicide en détruisant ses appareillages, et sa femme est accusée de meurtre. C'est bien ballot. La Mouche de Cronenberg prend une toute autre tournure, c'est un film fantastique avec une pointe d'horreur mêlée d'un drame et d'une réflexion sur la chair. Alors déjà, Seth Brundle, scientifique solitaire, est avant tout sans sexualité, avec des relations sociales proches du zéro. C'est un brillant chercheur à qui on laisse chercher ce qu'il veut, sans trop y regarder, parce qu'on sait qu'il est brillant. Une journaliste qui travaille dans une revue scientifique s'immisce dans ce travail. Alors d'abord réticent, Seth Brundle accepte qu'elle écrive un livre sur la téléportation qu'il met au point. Et on peut dire qu'il est très excité à cette idée. On peut penser que si le journaliste avait été barbu avec de l'embonpoint, sa réaction n'aurait pas été aussi enthousiaste.
Écoutez, que savez-vous en réalité ?
Pensez suffisamment pour être excité.
Alors pourquoi ne pas aller plus loin ? Servez-vous de moi pour en apprendre plus et vous ferez un livre, pas simplement un article. Vous me suivrez dans mes recherches jour après jour et vous saurez absolument tout. Je n'ai pas de vie privée, donc vous ne serez pas gênante. Allez au fond des choses. Couvrez l'événement. Le compte-rendu complet de l'invention qui bouleverse le monde. L'invention qui a mis fin à tous les concepts sur les transports, les limites et les frontières du temps et de l'espace. Et le livre se termine avec moi, transporté à quelques mètres à travers l'espace d'un télépode à un autre. Et c'est ce qui me manque. Vous pourrez m'attendre.
Alors pour impressionner Véronica, le journaliste, il téléporte son bas, impeccable, ça marche. Et puis peu de temps après, Brundle téléporte un babouin. Mais là, c'est autre chose.
Je n'y arrive pas avec de la chair. Il semble que ça ne marche qu'avec les objets et pas avec ce qui est vivant. Oh, c'est sûrement de ma faute.
Pourquoi ?
Les ordinateurs sont stupides, ils ne savent que ce qu'on leur dit. Il faut que j'en sache plus sur la chair, il faut que j'apprenne.
Et plus tard, le duo enfonce le clou avec la fameuse expérience du steak.
L'ordinateur nous donne son interprétation d'un steak. La traduction de son interprétation, il le repense, au lieu de le reproduire tel qu'il est. Donc, quelque chose s'est perdu dans la traduction.
Moi, je suis perdue.
La chair. Ça devrait rendre l'ordinateur fou, comme les vieilles dames avec les bébés. Mais non, pas encore, car je n'ai pas enseigné à l'ordinateur à devenir fou de chair. La poésie du steak. Il va apprendre tout de suite.
Alors bien sûr, la recherche exige rigueur et répétition, mais tout va se précipiter dans le cerveau de Brundle, qui découvre avec cette journaliste l'amour, le sexe. Alors ça, c'est assez exaltant, mais aussi la jalousie. Une jalousie qui sera la cause d'une téléportation un peu hardie, où Brundle se fait téléporter avec une mouche. On a enfin notre titre. Et cette mouche ne sera pas forcément une surprise puisqu'elle apparaîtra quelques plans auparavant. Ça n'est pas tout à fait donc une surprise. Et à l'image du suspense d'Hitchcock, Cronenberg va multiplier dans sa mise en scène des séquences où le spectateur est pleinement informé du drame à venir. Alors, lors de cette opération, tout semble avoir fonctionné. Brundle a été désintégré puis reproduit de manière identique en Brundle. Mais malédiction de la science hasardeuse, quelques jours après l'expérience, Brundle devient un athlète de haut niveau, un amant inépuisable et se gave de sucre. La mouche prend petit à petit ses quartiers. Ça n'est plus le même Brundle parce qu'il n'a plus le même corps, et parce qu'il n'a plus le même corps, il n'a plus les mêmes perceptions, il n'a plus les mêmes envies, et on pourrait dire il n'a plus la même conscience.
Je dois quelqu'un d'autre, quelqu'un qui soit à ma hauteur.
Zed, attends, il faut que tu me...
Tu as peur de plonger dans le bain de plasma, c'est ça? Tu as peur d'être détruite et recréée, n'est-ce pas? Je parie que tu es sûr que tu m'as révélé au plaisir de la chair. Mais la société ne t'a donné qu'une vue étroite de ce que peut être la chair. Tu ne peux pas pénétrer au-delà de cette peur maladive et grise qui est la peur de la chair. Bois jusqu'au bout ou ne goûte pas à la source du plasma. Tu m'as compris? Et je ne parle pas que de sexe ou de pénétration. Je parle de pénétration au-delà du voile de la chair. La pénétration, c'est le grand plongeon au fond du bain de plasma!
Il est donc en pleine révélation, on l'entend ici. Alors ça n'est plus Brundle l'homme, le scientifique, mais Brundle mouche. Cronenberg filme patiemment sa lente transformation, de petits poils dans le dos à la mutation totale, et ça fera un Oscar pour les effets spéciaux. Alors dans ce mouvement incontrôlé, la conscience de Brundle va finir par être altérée par l'animalité. Film fantastique, science-fiction, d'horreur et drame, la mouche et tout cela à la fois, et marque une nouvelle fois l'obsession de Cronenberg pour l'organique, avec en toile de fond une société qui enfouit, refoule tout ce qui pourrait être instinctif au profit de la morale. Et il y a une séquence que moi je trouve assez impressionnante.
Tu as déjà entendu parler de politique chez l'insecte? Moi non plus. L'insecte n'a pas de politique. Il est très brutal. Sans compassion, ni compromis. On ne peut pas faire confiance à l'insecte. Je voudrais pouvoir devenir le premier insecte politicien. Je voudrais, tu sais, mais... Oh, ça me fait peur.
Je ne sais pas ce que tu essayes de me dire.
Je veux dire... qui rêve qu'il a été un homme, et qui aimait ça. Mais le rêve est fini. L'insecte s'est réveillé.
Non. Non, Seth. Non.
Je veux dire... Je te ferai du mal si tu restes.
C'est pas tout à fait la fin. Alors certains ont vu dans la mouche, dans ce parasitage, l'expression du sida, alors le fléau de l'époque, mais il n'en est rien, Cronenberg s'en est même défendu. La relation avec le sida est très superficielle, dit-il. Je crois que le film traite de notre mortalité, de notre fragilité et de la tragédie des pertes humaines. Alors suite au succès de La Mouche 2 a été tournée pour donner un film manquant cruellement de mise en scène avec des effets spéciaux au rabais, faute de budget, tu seras d'accord Manu?
Oui, c'est d'ailleurs le responsable des effets spéciaux. Chris Wallace qui a réalisé le deuxième.
Ah oui, eh oui, il était pas...
C'est son seul film.
Cronenberg donc a annoncé avoir commencé donc à écrire sa propre suite. Donc tout ça c'est des probabilités. La Fox semble être intéressée, mais d'ici là, on peut encore voir la mouche comme un Spider-Man de l'horreur, un Flyman donc qui aurait oublié d'être avant tout un divertissement. Alors bon, il y aurait plein de choses à dire de toute façon au niveau aussi graphique, hein, les télépodes ressemblent à des œufs et en fait c'est des cylindres de moto Ducati qui sont inversés parce que Cronenberg adore tout ce qui est sport mécanique et d'ailleurs le Brundle, le personnage fait référence à un pilote de Formule 1. Le laboratoire c'est comme une forteresse et ça pourrait très bien être un placenta donc avec ces deux œufs qui sont dans le laboratoire. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Enfin Cronenberg est suffisamment méticuleux pour faire des films intéressants, on va dire. Donc c'est demain en Esther Burma, donc bien, ce sera aussi intéressant de voir Dangerous Method, qui est un film à la mise en scène plutôt classique, et puis de voir La Mouche, qui est un film voilà, emprunté au genre. Nestor Burma à 20h demain.
Téléportation réussie. Téléportation réussie. Téléportation réussie.
Cinérama, Cinérama. Cinérama. Sur Divergence FM.
Alors après vous avoir parlé des changements de titre infligés aux films américains et asiatiques, je vais maintenant me pencher sur un autre aspect de la distribution, les catchlines. Les catchlines, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de cette petite phrase sur une affiche ajoutée au titre, une petite phrase parfois écrite en très gros lorsqu'elle contient les mots-clés sexe, rire ou violence qui mettent en alerte nos cerveaux de mangeurs de pop-corn. Car pour se faire une place parmi les sorties de la semaine, tous les coups sont permis. Et c'est le marketing qui intervient dans cette dernière ligne droite qu'est la sortie en salle. Si le titre ou l'affiche sont encore équivoques, eh bien la catchline permettra de cibler le public visé par le film. Un exemple très concret, qui vous rendra sans doute nostalgique, si je vous dis « Rien sur Terre ne pouvait les séparer », vous me répondez ?
Titanic, c'est ça ?
Bruno avait trouvé avant, Titanic, merci Bruno. Bon, d'accord, heureusement que ça va ressortir en 3D, parce que là je me sens plus vraiment dedans. Hein. Bref, donc les catchlines fonctionnent à la manière d'un slogan publicitaire pour tenter de capter notre attention. Et pour cela, tous les moyens sont bons. Mieux vaut utiliser une bonne stratégie de communication et plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez par exemple pondre une catchline, en utilisant un proverbe. Vous n'aurez ainsi pas à vous creuser la tête et personne ne vous réclamera de droit d'auteur. Par exemple, « L'amour est aveugle, le mariage lui rend la vue », qui est la catchline de « Mariage », une bonne comédie française dont Dujardin ne se vante plus trop à l'heure qu'il est. Vous l'aurez compris, dans cet exemple-ci, on vise plutôt un public TF1 à l'humour trivial. On peut également s'adresser directement aux spectateurs, ce qui est une stratégie purement publicitaire. Exemple, sur l'affiche de Tati Daniel de Étienne Chatillier, on pouvait lire « Vous ne la connaissez pas, mais elle vous déteste déjà ». Tandis que l'affiche de Alien de Ridley Scott vous indiquait « Dans l'espace, personne ne vous entend crier ». Si ces deux catchlines sont plutôt réussis, le procédé peut être autrement plus lourd et faire clairement appel au voyeurisme du spectateur, comme l'affiche de Sleeping Beauty sortie l'année dernière, qui était barrée d'un grand bandeau indiquant « À vous de juger ». En gardant le même principe d'apostropher le spectateur potentiel, la catchline peut aussi s'adresser à vous dans un questionnement existentiel en vous posant des questions qui vous concernent forcément. Par exemple, pour quand Harry rencontre Sally, la catchline était « Deux amis peuvent-ils coucher ensemble et s'aimer encore au petit matin ?» Autre état d'esprit, avez-vous déjà tué votre meilleur ami ? Pour le film Battle Royale, ou encore aurez-vous le courage d'en rire ? Ça c'était Fargo. Ou encore, êtes-vous prêt à tout pour devenir célèbre ? La catchline du film 15 minutes. Alors c'est une règle, plus la catchline est vulgaire, plus elle est mise en avant. Et elle peut même prendre davantage de place que le titre du film, ce qui occasionne souvent quelques situations cocasses. Ainsi, de nombreux spectateurs, en 1986, ont demandé une place pour « putain de film », alors qu'il s'agissait du film ayant pour titre « tenue de soirée », « putain de film » n'en étant que la catchline. Parfois aussi, les catchlines préfèrent devancer les critiques en disant tout de suite la vérité aux spectateurs. Ainsi, on pourra lire sur l'affiche du film de Laurent Baffy, Les Clés de bagnole, « N'y allez pas, c'est une merde ». Ou encore sur l'affiche de la version longue du Grand Bleu de Luc Besson, « N'y allez pas, ça dure 3 heures ». Inutile de préciser bien sûr que les gens y sont allés. De la même façon, le distributeur se permet souvent de mettre ses propres superlatifs sur une affiche, ce qui crée toujours une catchline efficace. Si vous n'avez pas eu la chance que le New York Times encense votre film, ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même marquer sur l'affiche « chef-d'œuvre grandiose et éternel ». Avec un peu de chance, les gens ne se rendront pas compte qu'il n'y a aucune source à ces qualificatifs. Ainsi, petit exemple, l'affiche de l'avocat du diable vous annonce « inquiétant, terrifiant, machiavélique ». Mais ce ne sont pas les critiques qui l'ont jugé ainsi, uniquement le distributeur. Bon, pour finir, mais j'ai un petit peu peur au vu du premier exemple que je vous ai donné, je vais essayer de tester votre culture en matière de catchlines. S'il vous plaît, donnez tout ce que vous avez, aidez-moi. Alors, on commence. Si je vous dis l'histoire d'un jeune homme qui s'intéresse principalement au viol, à l'ultraviolence et à Beethoven.
Oh, bah, c'est Orange Mécanique.
Bruno avait encore répondu avant. Bravo, ah oui, bah, Bruno, c'était Orange Mécanique.
Il n'a pas attendu la fin, moi j'ai attendu que tu parles.
Bon, beaucoup plus difficile, c'est du français, je vous donne un indice. Il va lui apprendre les mauvaises manières, elle lui apprendra les bonnes.
Alors là, il va lui apprendre les mauvaises... Non, mais pourtant...
C'était Audiard sur mes lèvres.
Ah, pff,
ouais. Bon, elle est beaucoup plus facile. L'esclave qui défia l'Empire. Bruno a encore trouvé.
Spartacus ou je sais non.
C'était Gladiator. Gladiator presque. Ouais. Et pour finir, toucher, voir, sentir, goûter, entendre, trembler. La réponse elle est dans la catchline. C'était Sixième Sens de Night Shyamalan.
Ah d'accord.
Voilà.
Okay. Bon, ben, après les blind tests audio, les extraits de films, on va revenir avec des blind tests catchline alors.
Oui, ce sera nettement plus difficile. Et je voulais aussi préciser, si ça vous intéresse, je me suis appuyée sur un ouvrage qui s'appelle justement Putain de film, qui est sorti il y a 6-7 ans et qui vraiment dresse la liste de toutes les catchlines les plus connues. Bon, même si maintenant ils ont quelques années de retard, puisque voilà, le film est sorti, le livre pardon, est sorti il y a un petit bout de temps. Mais c'est un bouquin assez drôle.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
Allez, on fait vite. On va écouter André Blasco des rencontres cinématographiques de Pézenas. Bonjour André Blasco, vous êtes délégué général des rencontres de Pézenas qui se déroule du 10 au 16 février. Alors forcément, comme son nom l'indique, c'est à Pézenas. Ça se déroule au cinéma Molière et puis au lycée Jean Moulin. On va pas faire le détail de cette programmation, mais on va parler des temps forts et notamment le gros temps fort, en fait, c'est le cinéma iranien qui s'invite.
Alors c'est le cinéma iranien, mais si j'ose dire, nous avons réussi à englober toute notre programmation sous une interpellation qui est celle générique au cinéma, c'est-à-dire qu'est-ce que le cinéma ? Puisque vous le savez, le cinéma iranien, par les conditions qu'il a de tournage pour ses réalisateurs, l'omniprésence de la censure, autant sous le chac actuellement, a fait qu'ils ont dû, quelque part, utiliser des figures de rhétorique, faire des mises en abîme pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir dire des choses qu'autrement ils n'auraient pas pu dire.
Maman, چیزه فقط اگه کسی زنگ زد نمیخواد بگی من شمالم دیگه. بگو نمیدونم کجاست میگم خودش باهاتون تماس بگیره.
Comment ça va se traduire en fait en termes de programmation, alors bien cette présence iranienne. Alors il y aura des réalisateurs connus hein, comme Asghan Farhadi, c'est bien ça ?
Farhadi, dont nous présenterons deux films qu'il a fait intérieurement à Séparation, qui sont La Fête du Feu et À propos d'Eli. Nous aurons bien sûr un Kiarostami, le fameux close-up justement, où la mise en abîme là est absolument impressionnante. Nous aurons des films de Panahi, avec en particulier le Ballon Blanc. Nous aurons des films de Gobadi. Les Tortues volent aussi. Et puis nous ouvrirons ce vendredi, donc à 20h30, en présence de Nader Takmil Omayoun, qui présentera Téhéran, qui est son premier film de fiction, puisqu'on voit actuellement dans le cinéma iranien, disons, une prise beaucoup plus importante et directe de la réalité d'aujourd'hui, contrairement aux films, par exemple, antérieurs de Malbaf, de Kiarostami, et où on voit Téhéran devenir un personnage de cinéma. Alors, c'est souvent le Téhéran pauvre, le Téhéran non pas des auteurs, le Téhéran bourgeois, mais le Téhéran est là, effectivement, dans ce film, nous retrouvons avec la mafia, avec des trafics d'enfants, etc.
Il y a aussi le côté underground, hein. Vous avez parlé de Baman Gobadi avec donc les chats persans, hein, ce documentaire tourné eh bien, en toute illégalité à Téhéran et qui montre finalement eh bien, que ceux qui vivent à Téhéran peuvent quand même faire de la musique, ils écoutent la même musique que nous et ils font la même musique que nous, c'est-à-dire du rap, de la pop-rock et ainsi de suite.
Et en se cachant, et avec de temps en temps des descentes de police qui amènent à quelques petites tragédies. Nous en avons l'image dans ce film-là, mais il y a beaucoup d'autres témoignages de ce fait-là. Et effectivement, il y a une vie iranienne, disons, comme vous le dites, underground, qui est la principale manière de résister, encore en tout cas, pour dans les esprits et dans le moral aussi, parce que donc je pense que cette oppression qu'il y a et qui actuellement est en train de s'accentuer est très lourde à vivre au quotidien.
Allô, Bernard Tapie ?
Oui,
bonjour, c'est Pierre Carl, je suis réalisateur de documentaire et je vous appelle parce que je fais un film sur TF1 en ce moment. Oui, Charles Villeneuve ?
Oui.
Oui, bonjour, Carlos Pedro, je suis journaliste réalisateur.
Vous avez aussi des invités qui sont du cru, hein, comme Coelho, il y aura Pierre Carl et puis Annie Gonzalez, hein, qui est la productrice de CP Productions.
Mais là, justement, nous allons tenir une conférence avec elle qui va rejoindre notre questionnement général sur le cinéma, puisque elle va présenter en compagnie de Karine Ghiatti, qui est le directeur de Languedoc-Roussillon Cinéma, le documentaire comme écriture du réel. Et effectivement, nous verrons à travers Squat, à travers les documentaires de Pierre Carl, tout ce que le documentaire peut nous amener comme interrogation sur les images que nous recevons, puisque Pierre Carl s'est attaqué en particulier à démontrer la collusion qu'il y a entre le monde des médias, le monde de la finance, le monde politique, qui fait que quelque part les informations que nous recevons, même si elles paraissent être objective dans le sens où elle serait montrée avec des angles différents, en fait, elle se retrouve toujours à tourner autour des mêmes choses et que quelque part, notre liberté d'information peut être mise en doute.
En tout cas, merci hein, André Blasco de nous avoir consacré un petit moment hein, pour parler de ces rencontres cinématographiques de Pézenas. Ça se déroule du 10 au 16 février, c'est au cinéma Molière et puis aussi au lycée Jean Moulin. Toutes les infos sont sur internet à lafccm.org. Voilà, allez, on fait vite.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
Et donc un agenda très très rapide pour vous parler de seulement deux soirées. C'est demain au cinéma Diagonale avec le département des arts du spectacle. Ce sera à 20h la projection du film de Stanley Kubrick, The Shining, présenté par Loïc Lebihan, qui est maître de conférence.
Je me rappelle, lorsque j'étais encore tout monde, ma grand-mère et moi avions des conversations des heures entières sans jamais avoir ouvert la bouche. Elle appelait ça le Shining. Et pendant longtemps, j'ai cru que nous étions les deux seuls à avoir le Shining. Comme toi, tu as cru sans doute que tu étais le seul. Mais d'autres ont ce pouvoir, quoique la plupart l'ignorent ou ne veulent pas y croire. Le Shining.
Film. Et demain, à l'Utopia, alors en même temps, il faudra choisir, c'est un ciné-concert avec un film de Alfred Hitchcock, muet, de Lodger, et le Stéphane Olivia Trio. Et donc toi, tu y seras Manu.
C'est l'or, il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks.
Voilà, on va se quitter. Marine, tu dois annoncer quelque chose. Dis ta phrase.
Oui, tout de suite après, vous avez rendez-vous avec 24 notes secondes aujourd'hui consacrées à la filmographie de Anthony Hopkins.
On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Manu, au revoir Marine.
Et merci Bruno à la technique.
Cinérama.
Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien que des combines et de la merde. Y a pas de saint, y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.